Dans cet épisode, nous répondons à vos questions. Quelles sont les 10 principales allergies?
Qu'est-ce que je devrais faire si je trouve une insecte ou une plante inhabituelle?
Si un chat ou un chien prend une bouchée de votre nourriture, pouvez-vous continuer à le manger ensuite?
Si tu achètes des semences en ligne, est-ce que c'est ma responsabilité de m'assurer que je suis autorisé à le faire?
Vous est-il déjà arrivé d'acheter une bouteille de vin et de vous demander quelles étaient les calories? Ou pourquoi il n'y a pas la liste complète des ingrédients?
Allô, c'est moi, Greg.
Et c'est moi, Michelle. Et vous écoutez, inspectez et protégez.
Un balado où on aime parler de plein de choses, mais surtout de la santé des plantes, la santé des animaux et de la salubrité alimentaire.
Au mois de février, nous vous avons demandé de nous demander n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous répondons. Ensemble, Greg et moi avons discuté avec des experts à travers de l'agence pour obtenir vos réponses. Vos questions nous sont parvenues par le biais de commentaires et de messages directs sur les médias sociaux, ainsi que par notre équipe des enquêtes publiques qui nous a fait parvenir vos questions les plus populaires par courriel. Donc, nous les recevons un peu partout. Pour des raisons de confidentialité, nous n'utiliserons que les initiales de vos noms et la plateforme sur laquelle vous avez communiqué avec nous. Commençons avec un sujet assez populaire, les allergies.
Alors bonjour, je suis Jean-Louis Michaud, je travaille comme chef des opérations au bureau de la salubrité des rappels des aliments.
Alors bonjour Jean-Louis, merci d'être ici avec nous pour parler des allergies puis des alertes. SRG sur Facebook nous demande, lorsqu'une alerte est lancée pour signaler la présence d'ingrédients allergènes dans un produit alimentaire, peut-on continuer à le consommer sans danger si l'on n'a aucune allergie alimentaire?
Oui, tout à fait, parce que si on rappelle un produit, donnons un exemple concret pour des arachides non déclarés, évidemment, si moi je n'ai aucune allergie aux arachides, il n'y a aucune raison qui m'empêche de consommer le produit, bien évidemment. Dans les avis de rappel qu'on émet, on met toujours la raison. Et parfois, c'est un, deux ou plusieurs allergènes qui peuvent être impliqués. Donc, il ne faut pas juste se fier au titre « alerte aux allergies », il faut aller voir un petit peu plus loin et lire. Et si je ne suis pas allergique à quoi que ce soit ou encore à l'allergène non déclaré, il n'y a aucune raison qui empêche la personne de le consommer.
Savez-vous, Jean-Louis, quelles sont les 10 principales allergies?
Bien, tout à fait. En fait, il y en a un peu plus que 10 et on les retrouve dans notre site web là, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Mais pour en nommer quelques-uns, évidemment, les arachides, c'est un allergène qui touche beaucoup de gens. Le blé, le lait. On parle de l'allergie au lait, non pas l'intolérance au lactose, mais l'allergie au lait. La moutarde aussi fait partie maintenant des allergènes et les noix. Et si on regarde à notre site web, entre autres pour les noix, on donne une liste de noix qui nous préoccupent le plus, dont les amandes, les noix de Brésil, les noix de cajou, etc. Donc, ce n'est pas l'ensemble des noix qui causent des allergies ou qui sont dans les allergènes prioritaires, mais ceux qui sont listés, les œufs, bien évidemment, le poisson, le sésame, le soya, et dans les produits plus synthétiques, le sulfite fait partie des allergènes.
Sur le sujet des allergies, nous avons reçu une deuxième question. KR dans Facebook nous demande « Pourquoi la mention « peut contenir des allergènes » est-elle optionnelle au Canada? » Puisque cette question était plutôt adressée à Santé Canada, nous avons communiqué avec nos collègues là-bas. Voici leur réponse. Les mentions « peut contenir » pour les allergènes ne sont pas considérées optionnelles si l'aliment peut présenter un risque pour les consommateurs allergiques. Santé Canada affirme que le fabricant d'un aliment qui est ou peut être contaminé par un allergène alimentaire a la responsabilité, en vertu de la loi canadienne sur les aliments et drogues, d'avertir les consommateurs allergiques. Les aliments préemballés qui contiennent un allergène alimentaire prioritaire à la suite d'une contamination croisée et qui ne comportent aucune mise en garde sur leur étiquette feraient l'objet de mesures relatives à la conformité de la loi par la CIA. OK, passons à notre prochain sujet. À Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que signifient les différentes dates figurant sur les emballages de vos aliments? Écoutez bien notre prochaine invitée. Nous avons une question de CB sur Facebook. Pourquoi n'est-il pas obligatoire d'indiquer les dates de fabrication ou de production sur l'étiquette de tous les produits?
That is a really great question.
C'est en fait une excellente question. L'information sur les dates qui apparaît sur les aliments préemballés est un moyen très important de communiquer avec les consommateurs. Il faut toujours trouver un juste milieu entre fournir suffisamment d'informations aux consommateurs pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions et éviter d'imposer une charge inutile à l'industrie. Mais certains aliments doivent être étiquetés. Il s'agit notamment des dates meilleures avant, des dates de péremption ou des dates de fabrication dans certains cas.
Y a-t-il des types d'aliments spécifiques pour lesquels il est obligatoire d'indiquer la date de production?
For sure, there are. So for example, some
oui, par exemple, certains produits de viande et certains produits de la mer, comme les palourdes ou les huîtres, doivent porter une date de fabrication ou de production ou une date de récolte dans les cas de produits de la mer. Vous avez probablement remarqué, comme moi, que de nombreux aliments portent une date de fabrication parce que cette information est importante pour les consommateurs et qu'elle peut être ajoutée volontairement.
Nous avons reçu une autre question sur les dates d'emballage d'un autre utilisateur de Facebook. Il nous demande, devrions-nous retirer l'étiquette « meilleur avant » sur certains produits? Par exemple, je viens de finir mon pichet de sirop d'érable marqué « meilleur avant le 16 février 2021 », soit il y a bien plus d'un an, et il a toujours bon goût, et je n'ai jamais été malade après en avoir mangé.
Les dates « meilleures avant » indiquent des éléments tels que la fraîcheur et le goût. Elles sont obligatoires sur les aliments préemballés dont la durée de vie est de 90 jours ou moins. Mais nous les voyons souvent sur des aliments dont la durée de vie est supérieure à 90 jours, comme le sirop d'érable. Ces dates peuvent donc être ajoutées volontairement dans ce cas. Une date « meilleure avant » vous indique que l'aliment non ouvert conservera sa fraîcheur, son goût et ses qualités nutritionnelles, ainsi que tout élément revendiqué par le fabricant jusqu'à cette date. Mais évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, la durée de conservation peut changer une fois que l'aliment a été ouvert. Donc, si vous avez entreposé vos aliments correctement, vous pouvez les consommer en toute sécurité après la date limite de consommation.
Notre prochaine question est très intéressante. CB dans Facebook nous demande, pourquoi n'est-il pas obligatoire pour les produits alcoolisés de divulguer tous les ingrédients sur l'étiquette? Par exemple, vous est-il déjà arrivé d'acheter une bouteille de vin et de vous demander combien de calories elle contient et pourquoi qu'il n'y a pas de liste complète des ingrédients? Nos collègues de Santé Canada nous ont également aidés à répondre à cette question. Voici ce qu'ils ont partagé avec nous. Au niveau fédéral, Santé Canada réglemente l'alcool comme un aliment en vertu de la loi sur les aliments et drogues. Les boissons alcoolisées standardisées comme la bière, le vin, le vodka, le gin, le rhum et le whisky n'ont pas besoin de présenter une liste d'ingrédients sur l'étiquette parce qu'il existe des normes de composition pour ces types d'alcool, ce qui signifie qu'ils ont des exigences strictes quant aux ingrédients et aux procédés de fabrication autorisés. En revanche, les boissons alcoolisées non normalisées, comme les liqueurs à la crème, les martinis ou les mojitos, nécessitent une liste complète des ingrédients et de leurs composants. Et si la boisson alcoolisée fait l'objet d'une allégation relative à la teneur en nutriments, par exemple une bière avec très peu de glucides, ce qui est de plus en plus fréquent de nos jours, elle doit comporter un tableau de la valeur nutritive. Ils devront également indiquer sur l'étiquette si des allergènes prioritaires ont été utilisés dans la boisson, ce qui pourrait être mentionné dans une déclaration « peut contenir » plutôt que dans une liste d'ingrédients. Nous avons reçu une autre bonne question pour Santé Canada, encore une fois. Donc, ARV sur Facebook nous demande « Si un chat ou un chien prend une bouchée de votre nourriture, pouvez-vous continuer à le manger ensuite? » J'ai un chien, donc je me suis souvent demandé la même question. Ça me rappelle un peu aussi du film Beethoven, où un enfant partageait sa crème glacée avec un Saint-Bernard. Eh bien, Santé Canada nous répond que si un animal atteint votre nourriture et prend une bouchée, votre nourriture est maintenant malheureusement contaminée. Ne la mangez pas. La raison, les animaux domestiques sont parfois porteurs de germes qui peuvent vous rendre malade. Et ceci est une transition parfaite à notre prochain sujet, un sujet sur lequel nous recevons beaucoup de questions ici à la CIA. La nourriture pour animaux de compagnie.
Mon nom est Faith Zahakril, je suis vétérinaire, vétérinaire principale chargée des contrôles à l'importation des produits et sous-produits d'origine animale dans la section importation-exportation en santé des animaux dans la division des affaires internationales au sein de la CIA.
Super. La première question. Quel rôle joue la CIA dans la nourriture pour les animaux de compagnie?
Bonne question. La CIA n'a aucune autorité légale dans la fabrication au niveau domestique ou national des aliments pour animaux de compagnie. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'il n'y a pas de législation canadienne unique ou globale qui réglemente donc cette fabrication d'aliments qui sont destinés à la vente ou à la consommation à l'échelle canadienne. Mais il faut également noter que les aliments pour animaux de compagnie qu'on voit sur les étalages sont pour la plupart du temps soit fabriqués dans des établissements qui sont éligibles à l'exportation pour d'autres pays ou ils sont également importés à partir de pays tiers. Et dans les deux cas, que ce soit pour l'importation ou l'exportation, la CIA, dans ce cas-là, joue un rôle et réglemente l'importation en vertu de la loi sur la santé des animaux.
Donc, d'après ce que je comprends, la CIA joue un rôle dans la nourriture pour animaux de compagnie seulement au niveau de la prévention de maladies animales?
Oui.
Merci beaucoup, Faiza. Avant de passer à notre prochain sujet, je veux mentionner que même s'il n'y a pas de législation canadienne qui réglemente la nourriture d'animaux de compagnie, les fabricants canadiens sont membres de l'Association canadienne d'aliments pour animaux de compagnie et ils suivent les normes de l'Association américaine de contrôle des aliments pour animaux. Êtes-vous prêt pour notre prochain sujet? Écoutez bien, car celui-ci est pas poulaire avec les propriétaires de poulets.
Merci, Michel. Donc, mon nom est Cynthia Philet. Je suis vétérinaire aviaire depuis de nombreuses années.
Merci, Cynthia. Ma question pour toi provient de l'acronyme BB sur Facebook. Le recyclage de vieilles poules pondeuses commerciales est-elle prudent? Et pourrais-tu expliquer c'est quoi une poule pondeuse?
Bien sûr. Donc, quand on parle de poule pondeuse, on fait référence à des lignées qui sont sélectionnées pour la ponte. Maintenant, est-ce qu'on peut recycler des vieilles poules pondeuses? Est-ce que c'est prudent de le faire? Mais oui, ça peut se faire. Donc, on parle de poules pondeuses recyclées, donc qui ont déjà fait un cycle de ponte. C'est sûr qu'elles vont produire des œufs, mais elles vont en produire un peu moins.
Donc, en parlant de poulet, la grippe aviaire est un sujet populaire en ce moment. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette maladie et nous donner quelques conseils de prévention pour ceux qui possèdent des poulets?
Bien sûr. Donc, la grippe aviaire, c'est une infection virale qui est causée par le virus de l'influenza aviaire et c'est une maladie très contagieuse. Alors, premièrement, gardez vos oiseaux séparés des oiseaux sauvages. Il faut garder en tête que la sauvagine et les oiseaux migrateurs, ce sont les principaux vecteurs ou porteurs de la maladie. Donc, gardez l'environnement où vos oiseaux sont gardés propres, leurs mangeoires, leurs abreuvoirs propres et vous aussi. Et finalement, c'est encore l'idée de séparation. C'est vos oiseaux, leurs abreuvoirs, leurs mangeoires d'un côté, complètement séparés des oiseaux sauvages.
Cette prochaine question est pour les voyageurs ou ceux qui ont de la famille dans d'autres pays. J'ai recontacté Faiza, notre experte en produits et sous-produits animaux. Donc, sur Facebook, on a reçu la question « Est-ce que je peux apporter des rôtis congelés de poulet, bœuf et de pommes de terre de la Barbade? » Donc, ça, c'est une question sur Facebook de CD. Puis on se demande, c'est ça, grosso modo, peut-on rapporter des produits, des sous-produits animaux lorsqu'on voyage en provenance d'autres pays?
Il faudrait que ce soit une viande cuite, préparé commercialement, c'est-à-dire que ce n'est pas de la viande qui a été cuite en cuisine et qui est dans un petit plat qu'on ramène avec nous. Ceci serait rejeté au poste frontalier. Donc, un maximum de 20 kg de viande cuite, préparée commercialement, c'est-à-dire commercialement stérile dans des cannes, dans un emballage hermétiquement scellé. Ces produits-là peuvent être autorisés. Il faut qu'ils soient très bien emballés et doivent porter des marques d'identification pour qu'à l'arrivée, au niveau du poste frontalier, on arrive à identifier le type de viande et tous les contenants qui sont dans cet emballage. Encore une fois, comme je disais, les viandes fraîches, séchées ou les viandes de salaison ne sont pas autorisées. Nous avons reçu beaucoup de demandes, surtout en provenance de l'Italie, qui sont très réputées pour les salaisons, mais malheureusement, ces produits ne sont pas autorisés. Nous dirons que jusqu'à 20 kilos par voyageur de produits de viande et de volaille, donc ça comprend les viandes fraîches, peuvent être importés des États-Unis pour usage personnel. Bien sûr, le contenu doit clairement être étiqueté avec une preuve que le produit est vraiment d'origine des États-Unis. Si on parle des pays d'Europe ou d'autres pays, un maximum de 20 kilos de viande cuite cette fois-ci. On n'autorise pas la viande fraîche.
Super, merci de vous joindre à nous. Notre prochain sujet est pour tous les amateurs de plantes. Je sais plusieurs d'entre nous ont développé une vraie passion pour le jardinage, extérieur ou intérieur, pendant la pandémie.
Mon nom, c'est Mireille Marcotte. Je suis gestionnaire de l'équipe responsable des exportations de produits forestiers et horticoles.
Bienvenue, Mireille. Aujourd'hui, on a une question au sujet des plantes. Quelles sont les exigences en matière d'importation et d'exportation des plantes ou des graines?
En fait, ça varie beaucoup selon l'origine des semences. La première étape, c'est toujours de contacter le bureau local de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ils vont pouvoir vous informer sur les exigences à suivre pour pouvoir exporter vos semences ou pour pouvoir en importer. Vos semences pourraient avoir besoin d'être accompagnées par un certificat phytosanitaire, par exemple. Il pourrait être nécessaire qu'un test soit fait pour s'assurer qu'ils sont les semences sont exemptes d'organismes nuisibles. Donc, c'est toujours important de vérifier les exigences à l'avance pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème là, à l'importation ou à l'exportation.
Je sais comme avec la pandémie, c'est une passe-temps que beaucoup de monde s'engage à collectionner les plantes. Est-ce que c'est comme si tu achètes quelque chose en ligne, des semences en ligne, est-ce que c'est ma responsabilité de m'assurer que je suis autorisé à le faire?
Tout à fait. Si vous voulez importer des plantes de d'autres pays, il faut s'informer à l'avance quelles sont les exigences. Un certificat phytosanitaire pourrait être requis, par exemple. Si vous ne respectez pas les conditions, ben, les semences ou les plantes pourraient être détruites quand ils arrivent à la frontière. La même chose pour les exportations. Si on veut apporter des plantes vers les États-Unis, par exemple, souvent, ça prend un certificat phytosanitaire qui accompagne les plantes.
Est-ce que je pourrais être condamné à une amende ou quelque chose pour avoir fait cela?
Oui, c'est possible. Probablement pas une première offense, mais si ça arrive de façon répétée, il y a des pénalités financières qui pourraient être émises. Aussi, il faut penser au risque à l'environnement. Si vous importez des semences ou des plantes qui sont envahissantes, ça peut se répandre dans l'environnement puis affecter la biodiversité.
Est-ce que vous portez attention aux plantes et insectes autour de vous? Cette prochaine question est pour ceux qui ont remarqué une espèce exotique, inhabituelle ou envahissante dans les alentours.
Bonjour, je m'appelle Bruno Gallant. Je fais partie de la section des espèces exotiques envahissantes au sein de la division de la protection des végétaux.
Alors aujourd'hui, on parle d'une question qu'on reçoit assez souvent. Qu'est-ce que je devrais faire si je trouve une insecte ou une plante inhabituelle?
Oui, c'est une très bonne question. Puis, ce qu'on devrait faire, c'est contacter le bureau local de la CIA, juste pour nous aviser qu'est-ce que vous avez trouvé finalement, parce qu'on a certainement intérêt à savoir ou avoir connaissance des espèces qui ne sont pas normalement ici ou qui ne devraient pas être ici. Parce que ces espèces-là, on va être en mesure de pouvoir déterminer s'ils sont, qu'ils posent un danger pour l'environnement, puis pour la santé des végétaux au sein du Canada. Ces espèces-là peuvent arriver au Canada par différents moyens. Puis c'est sûr que si le plus de gens au Canada qui examinent leur environnement, puis qui examinent voir si quelque chose qui n'est pas correct, disons, tu sais, des choses qu'ils n'ont jamais vues, supposons, dans le passé, c'est ce genre de situation-là qu'on aimerait savoir, puis pour nous donner davantage une opportunité de pouvoir agir, puis de prévenir qu'ils soient ici en permanence.
Existe-t-il des applications ou des sites web que les gens peuvent utiliser afin d'identifier des espèces?
Oui, il y a différentes applications, puis il y a notamment iNaturalist et aussi EDD Maps. C'est des genres d'applications qu'on peut télécharger sur notre téléphone cellulaire, puis inscrire dans ces applications de l'information sur qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'environnement, puis même avoir une communication avec des experts qui peuvent nous aider à identifier différentes espèces.
Merci beaucoup, Bruno. Bonne journée.
Ah, merci.
Et c'était la dernière question pour aujourd'hui. Ce fut super intéressant d'apprendre la réponse à toutes ces questions. Si vous avez aimé cet épisode et que vous avez d'autres questions, écrivez-nous sur les médias sociaux en utilisant le hashtag Inspecter et Protéger pour que nous puissions chercher à répondre à vos questions dans un prochain épisode. Vous écoutez Inspecter et Protéger, le balado officiel de la CIA, où nous discutons de la salubrité des aliments, de la santé des animaux et de la santé des plantes. À bientôt!